Alex, tu peux répondre. Le lauréat du concours. Qui Bathsheba. Bathsheba qui a une triste histoire aussi. Hein. Veuve. Son deuxième mari a fait tuer son premier mari. Est-ce que ça, c'est pas une triste histoire? Elle a eu un bébé un jour du mariage avec le roi David. Le plus triste épisode de la vie de David, c'était peut-être ça. David a menti, David a fait tuer cet homme, David, voilà. Et puis finalement, la repentance est venue. Elle était veuve, bien sûr, son mari a été tué dans la bataille, par ordre de David. Elle donc épouse le roi. Et Dieu leur donne, après ce premier bébé né hors du mariage, il leur donne Salomon. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que l'héritier du trône vient de cette question tellement triste. On voit le pouvoir de Dieu de pardonner, de restaurer et de donner des privilèges et des bénédictions à des gens vraiment qui ont tout fait pour mériter le contraire. Bathsheba et David n'ont pas eu Salomon parce qu'ils méritaient d'avoir Salomon. Ils ont eu Salomon parce que Dieu leur a fait grâce. Et Dieu a dit, c'est lui qui sera l'héritier du trône. Et il était l'homme le plus sage et le plus riche de la terre, Salomon. Mais regardez ce que Bathsheba lui a dit, sans doute quand il était adolescent. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux. Bathsheba parle à Salomon et lui dit, évite le péché sexuel, évite l'impudicité. Elle est bien placée pour en parler. C'est un énorme malheur d'avoir été appelée par le roi David. Le triste sort de son premier mari, qu'elle a sans doute vraiment aimé. Oui, attention, veille sur toi-même. Oui, tu auras la convoitise, mais n'obéis pas à tes convoitises. Attention, Salomon, à l'alcool, à toutes les substances qui peuvent modifier ton comportement, à toutes ces choses que tu peux prendre qui vont faire que tu n'as plus les pensées claires pour juger avec équité puisque tu vas être le roi. Attention, Salomon, à l'indifférence. Quand les gens sont dans le malheur, ne fais pas semblant de ne l'avoir pas vu. Protège les innocents, protège les pauvres, sois plein de compassion. Voilà les trois conseils que Bathsheba a donnés au futur roi Salomon. Mes amis, parlons de l'adolescence parce que je pense qu'il était adolescent quand elle lui a parlé de ces choses. Qu'est-ce que l'adolescence? C'est une période de mutation entre l'enfance et l'état adulte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'adolescence. Il y a des vedettes de cinéma et de la chanson, notamment, qui sont des idoles des adolescents et des pré-adolescents. Ils font un argent fou sur l'argent de poche des filles et des garçons entre 11 et 15 ans. C'est impressionnant. C'est un marché maintenant. Mais en adolescence, c'est quoi? Il n'est plus tout à fait enfant, parce que entre l'âge de 7 ans et 21 ans à peu près, à 21 ans, on peut penser que quelqu'un est devenu adulte. À 7 ans, on sait qu'il est 100% enfant. Mais à 14 ans, il est quoi? Mais c'est un adolescent. Oui, mais parfois il agit comme un adulte, et parfois il agit comme un enfant. Et vous les parents, si vous avez un 14 ou 15 ans dans votre famille, parfois, mais il vous parle avec une maturité, vous dites,
ma fille, elle parle comme une adulte. Cinq minutes après, au téléphone avec sa copine, rigole comme, comme un enfant. On dit, mais elle est retombée en enfance, elle a 6 ans, 7 ans, elle lit n'importe quoi, mais c'est quoi, mais est-ce qu'elle est adulte ou est-ce qu'elle est un enfant? Elle est les deux. Parfois adulte, parfois enfant. Parfois adulte, parfois enfant. Et si vous, vous êtes confus, imaginez son cas à elle ou à lui. C'est une période de grande croissance physique. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes gens chancellent. Ils ont 40, petit 30. C'est curieux comment ces garçons de 14 et 15 ans, ils sont tellement forts et après, je n'en peux plus. Le samedi matin, quand ils avaient 8 ans, ils étaient dehors à 6 heures pour profiter de la journée. À 15 ans, ils sont au lit jusqu'à midi pour les sortir avec un cric. Mais qu'est-ce que t'as? Je ne peux plus. Hein? C'est dans la nature de la chose. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent très vite. Il y a mouvement hormonal dans leur corps. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils se rendent compte qu'ils vont devenir un jour adultes. Et là, ils découvrent leur corps. L'éveil à la sexualité. Ah, on voit quand les enfants passent dans l'adolescence, la partie là qui est... Parce que, avant, pour un garçon, les filles, c'est n'importe quoi, on dit, tout à coup, le type, il prend une douche tous les jours. Maman, je vais avoir des vêtements cool parce que là, voilà, parce que sinon, j'ai l'air d'un clou et tout ça. Mais pourquoi tu étais bien comme ça l'an dernier? Oui, ça, c'était l'an dernier, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Alors, si Léonard, j'ai découvert qu'il y a de merveilleux êtres partout sur la Terre, des jeunes filles. Et tu ne tenais pas ce langage l'an dernier. Ah mais ça c'était avant, maman. Et idem pour les filles. Mais les jeunes adultes ont une grande pudeur. Ils ont des sautes d'humeur. Ils sont parfois imprévisibles. Et bien des parents disent, oh, je ne comprends pas mon ado. J'avais un gentil enfant. C'est devenu un horrible ado. Mais non, mais non. Ça fait partie et on oublie volontiers son adolescence un soir. Hein. Si vous avez des problèmes, allez demander à vos parents, au papi et mamie de votre ado, comment vous étiez à leur âge, vous allez voir, ça va être instructif. Hein. C'est drôle que quand on devient adulte, on a tendance à oublier toutes ces années-là, un peu bête quand on était ado, mais vos parents s'en souviennent bien. Hein. Ils découvrent le raisonnement, un ado découvre le raisonnement. Quand ils comprennent qu'ils vont un jour être adultes, ils commencent à nous mettre sous la loupe à nos parents. Avant, papa, c'était le plus grand, ben, c'est l'homme le plus fort du monde, maman, c'est la plus belle femme du monde, mes parents ne peuvent rien faire de mauvais, ils sont super, ils nous ont idéalisés. Quand ils deviennent ados, on dirait qu'on a hérité de tous les défauts de la Terre. Il y a des ados, ils se ferment comme ça. Ah non, mon petit, comment ça s'est passé à l'école? M'appelle pas mon petit. Ah oui, d'accord, mon grand. Ouais, ça fait petit aussi, hein. Appelle-moi par mon prénom, maman. Oui, d'accord. Ça s'est bien passé aujourd'hui?
Ouais.
Qu'est-ce que t'as appris? Oh, c'est tellement ringard, maman, qu'est-ce que j'ai appris? Des trucs? Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Des choses? Avec qui? Avec des amis? Où est-ce que tu as été? De ci, de là? Maman, moi je suis pas bien, j'entre dans ma chambre. Entrée interdite sur la porte de la chambre. Ça c'est l'ado, dans toute sa gloire. Mais pourquoi regarde-t-il les parents? Parce qu'ils essaient de devenir, vont devenir adultes et ils se disent, je dois avoir mon propre raisonnement. Alors ils sont à la recherche, pas à la recherche, mais ils repèrent rapidement nos hypocrisies. On a fait une promesse qu'on n'a pas tenue, on a même oublié la promesse, mais l'enfant, il n'a pas oublié. Il peut tirer une tête pendant des semaines. Et papa et maman disent, bon, c'est un adolescent, qu'est-ce que tu veux, ça va lui passer, ça va lui passer. Pas forcément. Allez le voir dans cette chambre à la porte entrée interdite. Si je dis, vous, je ne permettrai même pas qu'il mette le panneau entrée interdite. Ah, c'est entrée interdite.
Oui.
T'as pas de place dans ma chambre. Bien. Alors, je vais calculer la surface corrigée de l'appartement. Tu vas payer ton loyer. Comme ça, tu seras chez toi. Je paye le loyer et j'entre là où je veux. Il ne faut pas quoi s'asseoir sur le lit et dire on va parler, je ne quitterai pas pour ne pas parler. C'est étonnant comment on entend le mot que bon but, bon but. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'une angoisse? Vous serez surpris. Ouais. Il y a 3 semaines, tu m'as promis qu'on irait à McDo ensemble, on n'y est jamais allé. Ça fait 3 semaines que tu me l'as promis. Alors moi j'en ai marre. Oh. Tout ça pour ça? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on dit? Je suis ton père, tu ne me parles pas comme ça, sinon tu vas voir ce que tu vas recevoir. Ou bien, c'est vrai, je me souviens que j'ai fait cette promesse. Je te demande pardon. J'ai promis et je n'ai pas accompli la promesse. On va y aller.
Oh, oh, non, c'est pas pour ça, c'est pour quoi comme nous, hein? C'est grave, hein? C'est grave, hein?
Non, mais j'ai fauté, j'ai promis et je n'ai pas, accompli ma promesse. Est-ce que tu me pardonnes?
Oui.
Vous allez voir un anneau qui tout à le soleil réapparaît. Il y avait un blocage en grains de sable. C'est impressionnant, parfois nous on ne va pas se souvenir, lui se serait souvenu. Parfois, adultes, ils arrivent. Ouais, tu sais, quand j'avais 14 ans, tu m'as promis un truc, tu ne me l'as jamais donné. Ils vous sortent ça 10 ans après. Les grains de sable qui se mettent dans les canaux de communication. C'est pas toujours la faute des parents, mais il faut être ouvert à l'idée qu'on a peut-être promis quelque chose, qu'on leur a fait croire quelque chose qui n'était pas. Et tant qu'ils nous voient comme des hypocrites ou comme des menteurs, ça va jouer contre la famille. Ils grandissent soudainement. Leur connaissance augmente rapidement. Et souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ou leur rêve n'est pas réaliste. Mais c'est le temps de la croissance. Ils découvrent le monde des adultes. Et surtout les ados, et même je pense aux adultes aussi, ils sont extrêmement sensibles à leurs frères, à leurs semblables. Et ils sont prêts à tout pour être reconnus et acceptés au sein d'un groupe. Je répète ça. Ils sont prêts à tout pour être acceptés et reconnus au sein d'un groupe. Donc pourquoi ils demandent la casquette de Marc et les chaussures à 300 euros la paire? Mais parce qu'il y a un groupe duquel il veut faire partie, qui porte ces baskets-là et ces casquettes-là, et s'il peut les avoir, il pense qu'il va être accepté et qu'il sera parmi les gars du collège ou du lycée. Parce qu'il y a des gars qui sont vraiment super et d'autres, ils n'ont pas les vêtements de Marc. Et c'est drôle comment, entre eux, le chef du groupe peut regarder un anneau. Je te crois pour qui c'est une violence. Pour les mâles, on peut être accepté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les anneaux? En Jésus-Christ, on peut les aider à être leur propre personne. Et dire, attends, qui es-tu? Est-ce que les gens dont tu veux être accepté, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Quelle est leur influence sur ta vie? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des activités d'adolescents dans une église comme ce concours et ce que vous faites pour les jeunes. C'est important qu'ils puissent dire, j'ai de vrais amis qui m'acceptent pour qui je suis. Je ne suis pas obligé de m'investir dans un groupe au lycée ou au collège pour être quelqu'un. Je suis en Christ et j'ai des amis en Christ et combien ça est important. On le voit dans nos camps d'ados. Les ados, ils prennent des décisions merveilleuses dans un camp, mais vers la fin du camp, on sent la peur qui commence à les envahir. Et vous savez ce qu'ils disent? J'ai pris des décisions, mais j'ai tellement peur parce que la rentrée va être là et je veux prendre position, mais j'ai peur qu'ils me rejettent. Et nous, on dit pour lui-même, mais qui te rejette? Pas grave, tu as le Seigneur. Oui, c'est facile en tant qu'adulte de dire, mais pour un jeune, c'est terrible. Ils ont besoin de l'aide de Dieu, ils ont besoin de notre amour et de notre assurance. Il y a des attaques sur les ados.
Le diable, le prêtre, la puissance de l'air, ils collaborent avec le système du monde et la chair, la nature pécheresse, pour attaquer les adolescents, pour les empêcher de se convertir, ou pour pousser les ados chrétiens vers le monde.
Il y a bien des ados qui disent je suis sauvé, mais je ne vais pas me faire baptiser. Et pourquoi? Parce que je ne sais pas comment ça va se passer jusqu'à mon bac. Et j'ai peur que de là s'y prendre et je vais renier la promesse que j'ai faite à mon baptême en j'attends pour... Mais cette peur du monde, la pression du monde. Comment libérer un ado de la pression du monde? C'est de l'aider à s'ancrer en Jésus-Christ. Qui suis-je? Les ados de ce monde, ils s'identifient par rapport à leur groupe. Mais un ado est assez adulte pour s'identifier à Christ. Et s'il fonde son identité sur Jésus-Christ, il n'a pas besoin de s'identifier avec le monde pour exister. Il peut être autrement. La semaine dernière, aux États-Unis, j'ai lu ça sur un petit truc de Facebook, non, c'est pas sur un journal. La semaine dernière, ils ont organisé dans tous les lycées du pays, l'organisation chrétienne, qu'on vienne autour du mât du drapeau américain. Vous savez, dans toutes les écoles, ils ont le drapeau américain, au du mât, hein, c'est... bon, c'est américain, c'est bien. Ils ont dit, on va se venir autour du mât pour prier. Dans les lycées publics. Alors, il y avait des lycées où il y avait pas mal de chrétiens. Et j'ai vu avec quarantaine d'adolescents qui se tenaient la main autour de ce mât de drapeau et qui priaient pour leur pays. Et ils ont montré quelques autres photos, notamment un jeune homme en sixième dans son collège qui était tout seul devant le drapeau à prier Dieu. C'était le seul de son lycée à venir là pour prier. Il a fait malgré qu'il était seul. Oh, il est chapeau. Voilà un garçon de 11 ou 12 ans qui a compris, mon identité est en Christ et je n'ai pas besoin de l'approbation d'un groupe pour être valorisé. C'est magnifique. Mais ils sont attaqués. Il y a des musiques que nos jeunes écoutent. Et ne me dites pas,
mais mon enfant, il n'écoute que du Mozart et de la musique classique. Ah, donc.
Peut-être le cas, mais ce sera 1 sur 1 million. Mais mes amis, avant, on avait le transistor. Si vous écoutiez n'importe quelle musique, tout le monde en savait ce que vous écoutiez. Hein? Souviens, quand on était enfant. Le transistor, les jeunes ne regardaient pas de travers. Le transistor, ça a vraiment existé au siècle dernier. Mais hein? Aujourd'hui, personne ne sait ce que vous écoutez. Et alors là-dedans, avec le téléphone dans la poche, oh oui, sauf si ça boum boum boum, là tout le monde entend qu'il y a la caisse, la grosse caisse dans votre musique qui boum 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 dans le métro. Mais sinon, on peut écouter n'importe quelle musique, personne ne sait. On va dans sa chambre, on peut passer des heures à écouter. Il y a des jeunes qui ne décrochent jamais la musique de leurs oreilles. Même ils s'endorment en écoutant la musique. Mais la musique, n'importe quelle musique, crée une atmosphère. Et quand la musique est envoyée contre les tympans ici, vous êtes au milieu d'un univers sonore. Vous êtes dans une bulle. Et tout votre entourage et tout ce qui est en dehors de cette bulle est loin. Vous êtes seul avec les musiciens que vous écoutez et c'est eux qui établissent l'atmosphère dans laquelle vous évoluez. Et aujourd'hui, techniquement, il est possible pour les jeunes, même des jeunes chrétiens, de se mettre dans un univers sonore qui va nier toutes les valeurs de Jésus-Christ. Sans jamais parler contre Dieu. Simplement, la musique, la manière dont c'est joué, les paroles peuvent complètement inonder un jeune cœur. Et le peu de temps qu'il passera avec la Bible ou à l'école du dimanche ou avec le groupe de jeunes ne viendra jamais compenser l'atmosphère dans laquelle il est plongé. C'est important pour les parents de savoir quelle est la musique qu'écoutent leurs adolescents. En adolescence aussi, on manque de communication souvent avec les parents. Quand on est enfant, que c'est simple. Vous avez des parents, des enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Hein? Et on dit, oh, mais c'est horrible, mais il faut que je le change. Et, il mouille le lit la nuit, il change les draps, mais il me tarde qu'il soit adolescent. Vous les croisez 10 ans plus tard, il est adolescent. Oh, j'aurais voulu qu'il reste à 3 ou 4 ans. Il y avait beaucoup de travail, mais au moins les choses étaient simples. Alors, je ne sais pas qui est devenu. Je ne sais pas d'où il sort celui-là. J'avais un enfant, je retourne là, je ne le connais pas. Je ne le connais plus. Un enfant communique avec ses parents naturellement. Mais c'est très important de continuer à cultiver cette écoute. Parce que quand un enfant veut parler, tais-toi, maman, écoute la réponse. Donc tu te tais, tu manges ton goûter, tu t'en vas dans ta chambre. Il fera. Mais après, quand il y a des difficultés, viens, j'aimerais qu'on parle ensemble. Au lieu de rien dire. Il se souvient, quand il a voulu parler, qu'on lui a fermé la bouche. On était trop occupés pour lui. C'est important, quand un jeune rentre, de bâtir ce pont de communication, de s'asseoir avec ses enfants et parler avec eux. Beaucoup de parents disent, non, je ne vais pas quand même forcer la porte parce que ça pourrait le mettre mal à l'aise. Je le laisse comme ça et peut-être dans quelques temps, il viendra naturellement de lui-même vous parler. Mais quand on n'est pas trop, on laisse la non-communication s'installer et les distances se grandissent. Il faut savoir briser la bonne ou percer l'abcès quelquefois et aller dire qu'il y a un problème, je vais aller parler avec mon ado. Ils ont besoin aussi d'être renforcés dans le bon comportement. Je connais une famille, des enfants, ils sont ce qu'ils sont, ils ont, oui, ils ont leur caractère, mais surtout ces enfants, je n'entends jamais leurs parents les féliciter. Jamais, pour aucune chose. S'il y a un truc négatif à dire, ils vont l'entendre. S'il y a un truc positif, ils ne vont jamais l'entendre. Et un jour, les enfants avaient joué de la musique, et les parents étaient là, et mon épouse est allée dire aux enfants, merci de la musique que vous avez jouée. C'était beau. Et le grand garçon, qui avait peut-être 17 ou 18 ans, et il a dit, hey, papa, qu'est-ce que tu penses? Alors le garçon dit, oui, papa est très reconnaissant que ses enfants ont si bien joué. Ça fait mal au cœur. Les enfants, quand ils font quelque chose de bien, il ne faut pas rater l'occasion de leur dire « je suis fier ». Ça rebâtit une relation publique n'importe quoi. Ils ont besoin de ça. Vous et moi, on a besoin de ça. On a besoin d'encouragement. Et il faut gâter les occasions d'encourager nos enfants quand c'est vérité. Aujourd'hui, les ados n'ont pas tellement de responsabilités. C'est depuis ces 60 dernières années à peu près, la plupart des adolescents peuvent vivre jusqu'à l'âge de 20 ans sans jamais travailler, sans jamais avoir aucun vrai travail. On va à l'école, mais on ne travaille pas. Mais il y a 75 ans, les gens étaient en materne, et à partir de 7-8 ans, on travaillait tout l'été, on travaillait après l'école, on travaillait le samedi, on travaillait, on avait plein de choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de temps. Énormément de temps libre. Et on sait qu'un esprit qui n'est pas occupé, qui n'est pas responsabilisé, va se tourner vers la folie et vers les choses qui ne valent rien. Le jeune est désœuvré, gravite vers la fatigue, la paresse et le mal. C'est important donc pour lui qu'on lui donne des responsabilités dans la maison, dans le jardin si vous en avez un, dans l'église, là où vous trouvez. L'immoralité ambiante dans le cinéma, dans la télé, dans le langage, dans les mœurs sur Internet, vous savez, vous qui travaillez dans les entreprises et vous qui êtes à l'école, vous entendez des gros mots à longueur de journée. Vous ouvrez la télé, des mêmes gros mots. Il y en a 5 ou 6 que les gens manient continuellement, ils s'en servent comme des points de ponctuation, au point que chacun commence à les utiliser parce qu'on les entend tellement, ça rentre dans la tête et c'est des mots grossiers. Quelle ambiance! Les jeunes aujourd'hui maîtrisent l'Internet, ils savent chercher des informations de toutes sortes, et des sites moralement extrêmement dangereux, sans parler de la tenue vestimentaire. J'ai rien contre les ados, mais j'en ai contre la mode quand même. Parfois on dit les pauvres sont tellement beaux, regardez comment on les a habillés, parce qu'on a mis la pression à travers la publicité, voilà ce qui se porte aujourd'hui. Les jeux vidéo, il y a 2 ans, les jeux vidéo, c'était plus d'argent que des livres vendus dans le monde. Pour la première fois, la tendance était inversée et ça va continuer comme ça. Les jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? J'ai rien contre les jeux vidéo, mais il y a une chose de mauvais, c'est que si on en pratique trop, on est dans un univers. Vous les jeunes, vous savez mieux que moi de prendre un jeu vidéo et en l'espace de 15 minutes, on peut tuer une cinquantaine de personnes. Sans la moindre douleur. On peut voir du sang gicler sur l'écran, on peut voir les têtes rouges. Non, mais excusez-moi, je... Mais voilà. Des choses les plus invraisemblables. Et on coupe ça et on est... Il y a des jeunes qui sont dans ce monde virtuel et qui n'ont presque aucune prise avec le monde réel. Dans quelles conditions vont-ils devenir des adultes? Vous allez dire, mais il est contre tout ce type. On ne peut rien faire. Mais comment éduquer les adolescents aujourd'hui? Pareil. Commencer enfant par l'obéissance. Un adolescent a la capacité, à mesure qu'il grandit, il a la capacité de raisonner comme un adulte. Et pour privilégier ces moments-là, quand un adolescent agit comme un adulte, on peut le traiter comme un adulte. On peut privilégier le raisonnement. Au lieu de dire, papa te dit de faire ça, point. C'est qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire dans cette situation? Et pourquoi tu penses que c'est la meilleure solution? Parfois, l'ado, papa ou maman dit quelque chose, il est contre. Il est contre parce que c'est ses parents. Mais si lui qui devait prendre la décision, ben finalement il finirait par penser comme ses parents. Et donc on peut privilégier le raisonnement. On le met à l'avant. D'ici 10 ans, tu seras peut-être parent. Comment réagiras-tu devant la situation devant laquelle je me trouve? Ça peut l'aider à réfléchir, à se développer. Lorsqu'il agit comme un enfant, il faut le traiter comme tel. Oui, tu vas aller chez les amis, tu reviens à 22h, ok? 22h, pas une minute après, 22h, on est bien d'accord? Oui, papa, il n'y a pas de problème, 22h, tu comptes sur moi, Oui, d'accord, je compte sur toi, 22h, ok? 22h30, 23h, 23h30, il rentre. Alors, Christophe, quelle heure est-il?
Oui, c'est un peu 22h, à peu près, donc c'est pas 22h.
Non, c'est 23h30, comme c'est pour les gens. On lui dit notre truc, et voilà, mais j'ai pas vu le temps passer. Écoute, Christophe, tu veux retourner chez ton copain quand? La semaine prochaine. Mais non, ça sera la pierre de chute.
Oh, c'est pas n'importe quoi!
Écoute, Christophe, moi, je veux te donner des privilèges. Je veux t'en donner. Comprends bien. Mais il faut que tu joues le jeu, il faut que tu te montres responsable. On avait un contrat. C'était quoi? 22h. Tu es avec 1h30 de retard. La semaine prochaine, ce n'est pas possible. Dans 15 jours, est-ce que tu veux qu'on réessaye? Pour 22h.
Oui, oui, bon, d'accord, ok.
Il n'a pas le but, il n'a pas de passer. Mais il a compris la laisse autour de mon cou. Pourrait être plus longue si je me montre digne de la confiance de mes parents. Comme ça, il va comprendre Mes parents veulent que je devienne autonome. Ils veulent me donner des privilèges. Si je me montre à la hauteur, j'en aurai. Si je ne montre pas à la hauteur, ils ne pourront pas m'en donner. Ce n'est pas mes parents qui m'empêchent de vivre, mes parents veulent me donner des privilèges. Pourquoi ? Quel est le but de l'éducation de l'enfant ? C'est le rendre autonome pour qu'il puisse quitter les parents et ne plus en avoir besoin. Puisqu'à la fin de la fin, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et qu'ils deviendront une seule chair. Donc le but, c'est qu'il soit entièrement autonome et responsable. Et c'est là, dans l'adolescence, qu'on fait, on met la dernière touche à ce travail-là. Parfois, nous faisons des erreurs auprès de nos ados, on ne sait même pas l'erreur qu'on a faite. Mais ils se ferment comme des huîtres. Il faut aller les voir. Demandez pardon s'il le faut. Quand vous savez qu'il y a un danger moral ou spirituel pour votre adolescent, il faut être inflexible. Parfois, les jeunes disent « Ben, j'aimerais, je vais aller chez un copain. » Vous ne connaissez pas le copain. Vous ne connaissez pas ses parents. Vous ne connaissez pas l'ambiance. Est-ce que vous allez le laisser aller? Invite ton copain d'abord, j'aimerais le rencontrer. Qui vient ici. Et vous verrez comment il part. Vous verrez comment il est. Est-ce qu'on peut rencontrer ses parents? Non, mais attends, je ne suis plus à l'école maternelle. Oui, donc tu es à l'école maternelle. Mais je ne connais pas ses parents. J'aimerais bien les connaître. Est-ce que tu as quelque chose contre que je les connaisse? Oh, non, non. Et là, on peut parler. Parce que les parents sont responsables de leurs enfants. Même devant la loi, ce sont les mineurs, les parents sont responsables. Et là, peut-être un texte qui dit, écoute, même selon la loi, je suis responsable de moi. Quelque chose t'arrive, c'est moi qui casse. Alors moi, je veux savoir où tu es et je veux savoir que tu fréquentes. Et que tu peux te plaindre si tu veux, mais c'est comme ça. Et quand tu seras grand, tu voudras faire quelque chose avec tes enfants. En ado, il respecte un adulte qui maintient l'autorité. D'ailleurs, on est dans les lycées. Il y a des profs qui se font respecter. Il y a des profs qui ne se font pas respecter parce qu'ils veulent être copains avec les jeunes. Est-ce que vous pourriez penser que les jeunes diraient « Ouais, il est trop super ce prof, il nous laisse faire n'importe quoi, il est trop génial. » Vous savez ce qu'ils disent? Il nous laisse faire n'importe quoi, il est nul ce prof. On n'a même pas envie d'être avec lui, on n'apprend rien. Il veut être notre copain. On n'a pas besoin d'un prof copain. On a besoin d'un prof prof. C'est eux qui le disent. Et c'est pour ça qu'ils sont ados, d'accord, mais ils ne sont pas encore adultes. Et ils respectent les parents qui sont fermes sur l'essentiel. Si on est honnête avec eux et qu'on est ferme, ils respectent. Il faut l'encourager à bien employer son argent, à voir comment il dépend son argent, à conserver sa culture. Donnez-lui des responsabilités précises à la maison, aidez-les à les maintenir. On peut faire des projets ensemble. Des moments de détente avec vos enfants, c'est quelque chose de fondamental. Un moment privilégié. Et puis, il nous faut être conséquent et crédible dans nos choix spirituels. Vous savez, les enfants nous regardent. On va à l'église, on chante. Oui, Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout. Et puis la réunion d'études bibliques arrive et là nous dit, est-ce qu'on va à l'église ce soir? Ah oui, on va à l'église ce soir. C'est certain parce qu'on est un enfant de Dieu et parce que l'église est importante. Bon, on va à l'église. Et le mercredi suivant, on va cette fois-ci? Non, tu sais qu'il y a un film qui passe à la télé que nous j'aimerais voir et puis maman est fatiguée. Cette fois-ci, on va un peu sauter, mais on ira peut-être la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il comprend ce garçon? Tout ça. Le Seigneur est moins important cette semaine que la semaine dernière, apparemment. C'est pas la peine de monter sur nos grands chevaux une semaine et puis de s'accouler douce la semaine suivante. Si nous avons fait des choix spirituels, moraux, il faut être conséquent et crédible. Les ados, ils apprécient la crédibilité et les gens qui sont stables, mais ils méprisent cette. Oh, comme on me semble, je change tous les jours de règles. Ils méprisent ça. Je ne veux pas, pour l'instant, c'est sûr, non trop pessimiste. Les ados sont les adultes de demain. Et les ados, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir des ados qui aiment le Seigneur. Mon père nous a enseigné, et je le rends grâce à Dieu pour ça, que Dieu a mis en plan. Et quand j'étais encore enfant, j'ai pu donner ma vie à Dieu. Je ne savais pas du tout ce que je voulais que je fasse, mais j'ai voulu lui donner ma vie. Et à l'âge de 11 ans, après le passage d'un missionnaire qui allait en France, après le passage de ce missionnaire, quelques semaines après, le Seigneur m'a donné une conviction, comme ça, que je passerai ma vie en France comme missionnaire. Je ne savais pas du tout où, je ne savais pas du tout comment m'y préparer, je savais juste que je passerai ma vie en France. Et par la grâce de Dieu, dans ma dernière année de lycée, j'ai appris qu'il y avait un programme pour les gens qui faisaient des études secondaires, qui pouvaient aller en France étudier la Bible et former des équipes missionnaires avec des jeunes français et aider à fonder des églises. Et ça n'existait qu'en France. C'était un nouveau programme qui n'avait jamais été ici. Et ça a commencé en 1968. Et je suis venu en 71. Et j'ai pu bénéficier de ce programme. Et j'ai vu la main de Dieu me diriger. Ce que je veux dire par là, c'est que les ados, ils sont dans cette tranche d'âge, entre 14 ans et 24 ans, qui vont prendre pratiquement toutes les grandes décisions de leur vie. C'est des années merveilleuses, mais ce sont des années cruciales. Et nous devons prier pour eux. Parce que la prochaine génération de pasteurs sont dans notre groupe de jeunes. Ce sont peut-être nos ados. Ils ont la vie de nous. Ils sont jeunes, ils sont pleins de talents, ils sont intelligents, ils sont en train de se construire. Et que Dieu nous aide à les aimer tendrement, à les nourrir, à les fortifier, à les encourager, à les stimuler, à être les meilleurs chrétiens qui puissent être. Et je finis avec la parole de Paul à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants.
Amen. Amen.